Et donc, nous sommes dans la cinquième et dernière soirée. Du coup, je ferai une petite. Il y aura des petites annonces après le temps d'oraison pour voir. Et un dialogue avec vous aussi pour voir comment vous aider et vous soutenir pour continuer sur cette bonne lancée. Voilà. Donc, après le temps d'oraison, si vous, ceux qui le souhaitent, on pourra avoir un échange pour. Voir comment continuer. Voilà, merci à chacun et bonne soirée. On va commencer par prier l'Esprit Saint. Page 6, aux vives flammes.
Bonsoir à tous. Commençons par faire silence pendant un petit moment. Vous avez vu, quand on a des carmélites à côté de nous, comme c'est facile de faire silence. Ça marche bien. On se sent aidé à plonger dans les entrailles, quoi. Alors, je dois vous parler d'un sujet qui est très, très précieux. celui du rapport entre l'oraison, la prière, et puis l'amour, la charité. C'est un sujet particulièrement cher à Thérèse d'Avila, car pour elle, il ne peut pas y avoir de prière sans amour, il ne peut pas y avoir d'amour sans prière, c'est impossible, impossible. Et l'un est un lieu de vérification de l'autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent dire, oh là, moi c'est formidable, j'ai une expérience de prière magnifique, c'est tellement fort, c'est tellement intense, c'est tellement profond, etc., etc. Mais qui vont se comporter de telle manière qu'ils sont impossibles à vivre au quotidien. On a le droit de douter sur la qualité, sur la vérité de la prière, de l'expérience de prière. Ça ne met pas en cause la qualité de la personne, mais ça met en cause la qualité de son expérience de prière. Et inversement, quelqu'un peut se trouver très bien, comme vous savez, dans l'évangile, le pharisien au premier rang, qui dit « moi, je fais tout impeccable, vraiment, tu devrais, en s'adressant à Dieu, tu devrais te rendre compte que je suis quelqu'un de bien, quoi, enfin, que je pratique tout ce qui est à pratiquer, en particulier l'aumône, la charité, tout ça. » Mais Jésus montre que ça ne suffit pas. Il y a une dimension qui manque, celle de la connexion, de la profondeur de la connexion avec Dieu, qui est le propre même de la prière, et qui fait que, obligatoirement, quand cette connexion existe, il y a de l'humilité, il y a de la pauvreté, il y a du dénuement, il y a de la capacité à laisser passer à travers soi quelque chose qui n'est pas de soi. Et donc ça, c'est la prière qui est nécessaire à la charité. Donc, ces deux réalités, oraison et charité, sont indissociables chez Thérèse. L'une nourrit l'autre. Il n'y a pas de véritable prière sans amour du prochain. Il n'y a pas d'amour authentique sans union à Dieu dans la prière. Pourquoi ? Parce que le mouvement de la prière et le mouvement de l'amour procèdent exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une conversion pour passer de l'intellect au cœur. Alors, ce n'est pas le vocabulaire de Sainte Thérèse, pardon, mais je pense qu'on peut reprendre dans la tradition, en particulier la tradition des moines comme Évagre, par exemple, on peut reprendre ce vocabulaire-là. La conversion, c'est passer, en langage moderne, du mental à l'intelligence cordiale, du cœur. Ce mouvement de la prière est une connexion à la source d'eau vive, là c'est du vocabulaire thérésien, et l'amour divin est cette source d'eau vive qui s'ouvre en nous, qui jaillit en nous, et qui en jaillissant en nous cherche à se partager à tous. Eh bien, la prière c'est cela, c'est chercher à être établi dans cette connexion, et l'amour divin, c'est cela aussi. On ne peut aimer qu'à partir de cette source. Et pour rejoindre l'élan de cette source, il faut être dépossédé. C'est-à-dire ne pas vouloir se faire soi-même, mais recueillir cette source qui ne vient pas de nous et qui nous transforme et qui nous permet de vivre divinement. Ne plus être attaché à la matérialité des objets auxquels nous sommes tellement attachés, comme s'ils étaient notre propriété, et en quelque sorte le prolongement ou le reflet de nous-mêmes, ou bien de ces objets considérés comme les outils nécessaires à la construction de notre personnage, vous savez, qui pourrait devenir même une idole de nous-mêmes. On voit souvent ça dans les passages d'évangile. Donc être détaché de ces objets pour mieux les utiliser avec liberté, mais aussi être détaché de la représentation même que j'en ai. Tout ce que je vous dis là est de l'enseignement vraiment traditionnel, de la représentation que j'en ai, des images mentales qui leur donnent pour nous une certaine consistance, alors même que ce ne sont que des représentations, des modélisations en quelque sorte partielles et transitoires de la réalité de ces objets. Cette réalité qui est tellement plus en soi mystérieuse et qui nous échappe, plus riche, plus mystérieuse et qui nous échappe. Alors, détaché des objets comme notre propriété, détaché de leur représentation, et même plus encore, détaché des mouvements que suscitent en nous les réalités qui nous entourent. Mouvements de désir, de sentiments, de pensées que l'on absolutise souvent et qui prennent pour nous valeur d'absolu, sans aller se fonder à la racine profonde de l'être, au cœur de notre cœur. Ouais. Il ne s'agit pas de nier les désirs, les émotions, les sentiments ou les pensées, il s'agit de les fonder, c'est-à-dire de faire le détour par cette source intérieure du cœur qui jaillit dans le cœur pour que les désirs, les sentiments, les émotions, les pensées puissent être justement ordonnés à un développement harmonieux d'amour selon Dieu, qui est la source de tout bien. Donc, ce détachement est évidemment une conversion difficile. Et on peut aller même encore plus loin, détachement de l'image même de Dieu. Selon la première parole des tables de la loi, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Dieu est une source, un fondement, un rocher sur lequel on prend appui, un père, comme le dit Jésus, mais nous ne savons pas dire beaucoup plus sur lui. Et Jésus ne dit pas beaucoup plus sur lui. Il nous précède et il nous devance et nous sommes traversés par lui sans pouvoir mettre la main sur lui. Et donc, pour vivre cette réalité qui est une réalité de vie, d'amour et aussi de prière, donc, il y a lieu de pratiquer ce détachement, cette dépossession, cette forme de pauvreté qui est la richesse la plus grande, quoi. Selon la parole de saint Paul, à propos de Jésus, de pauvre qu'il était, il s'est fait riche, il nous a fait riche en nous partageant sa pauvreté. Alors, comment est-ce que Thérèse propose de vivre ce chemin? Car je crois qu'on peut dire qu'elle est bien dans cette perspective, selon la plus grande tradition spirituelle de la foi chrétienne. Alors, tout d'abord, elle propose de voir dans la prière un chemin d'amitié, ce qui est quand même extrêmement encourageant et chaleureux et sympathique, même si c'est difficile. Thérèse définit l'oraison de cette manière dans le livre dans son autobiographie, l'oraison mentale n'est autre chose, à mon avis, qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Et pour vivre ce commerce d'amitié, il s'agit de laisser de côté tout ce qui peut nous attacher à autre chose. C'est comme quand on aime quelqu'un d'amour, il faut un dialogue privilégié pour que cet amour soit en quelque sorte nourri, vécu, alimenté. Et cette phrase que je viens de citer de Thérèse condense finalement toute sa spiritualité. L'oraison n'est pas d'abord une technique, ni un exercice intellectuel, ni une pratique particulière, mais d'abord une relation d'amitié avec Dieu, avec le Christ, dans l'esprit. Il s'agit de se tenir en présence de ce mystère-là qui nous fait. De se tenir en présence d'un Dieu vivant, personnel, qui aime et qui invite à répondre à son amour. Vous voyez, quand je parlais de la relation, de la connexion à la source, ça peut paraître un peu abstrait. Mais Sainte Thérèse en parle en termes d'amitié. Nourrir une amitié avec Dieu, avec le Christ, dans l'esprit. Un Dieu dont on se sait aimer. C'est une relation réciproque pour Sainte Thérèse. On pourrait croire que d'une certaine manière, la relation avec Dieu n'est pas égalitaire en quelque sorte. Mais pour Sainte Thérèse, c'est une relation réciproque qui va vraiment dans les deux sens. C'est une vraie relation, au fond. Un Dieu vivant qui aime et qui invite à répondre à son amour et qui se nourrit aussi, d'une certaine manière, de l'amour qui lui est rendu. Et cette prière d'amitié s'enracine dans la foi et la conscience que Dieu, justement, nous aime, dont on se sait aimé. C'est la découverte fondamentale d'un Dieu qui n'est pas un juge lointain, mais un ami proche, un époux, un compagnon de route. Et c'est une présence constante. Pour Thérèse, cette relation d'amitié n'est pas réservée à quelques moments privilégiés, même si l'oraison participe à l'actualité de cette présence. Ce n'est pas d'abord, on pourrait dire, des moments privilégiés. L'oraison doit devenir en quelque sorte une présence continuelle. Et en ce sens, elle fait écho à toute la tradition antérieure, puisque même l'expression du Christ, prier sans se lasser, ou l'expression de saint Paul, prier sans relâche, ou bien c'est l'inverse, l'expression du Christ, prier sans relâche, et l'expression de saint Paul, prier sans se lasser, est une définition de la prière continuelle. Et dans l'idéal de la vie monastique, la prière continuelle est un élément très très important. Il ne s'agit pas d'égrener des mots de prière en permanence ou des attitudes de prière en permanence. Il s'agit d'être en permanence dans la présence de celui qui est, qui se donne, qui nous aime et qui nous fait et qui nous transforme. Dans le chemin de la perfection, au chapitre 28, Thérèse dit « Ne croyez pas, mes filles, que l'oraison consiste à beaucoup penser, mais Elle consiste à beaucoup aimer. Ainsi, le but n'est pas de multiplier les discours vers Dieu, mais de vivre en présence aimante de Dieu dans le concret, le plus concret de l'existence. Il y a un texte qu'il évoque dans les textes qui vous ont été donnés là. Et l'oraison transforme en même temps notre être au monde, transforme notre regard, transforme nos attitudes, transforme notre manière d'appréhender les événements, les personnes. Elle apprend à voir Dieu en toutes choses, même les plus petites, ou dans les autres, ou dans le travail, et même dans les contrariétés. Alors évidemment, il y a un apprentissage de cette manière d'être. Et cet apprentissage se fait certainement en plusieurs étapes, ça ne vient pas d'un seul coup. On ne vit pas en présence de Dieu du jour au lendemain. Il s'agit de s'y adonner, en quelque sorte. Et il y a dans le livre de vie quatre degrés qui sont décrits. Premier degré, on puise l'eau à la main. C'est l'effort humain, avec la méditation, le combat contre la distraction. Un deuxième degré, on tire l'eau avec une noria. Vous savez, le noria, c'est cette espèce de je sais pas comment on peut décrire ça, avec des différents seaux là, comme ça, qui tournent et qui permettent de retirer l'eau du puits. Donc là, l'effort reste présent, mais Dieu agit plus librement, l'eau monte plus librement. Et puis, troisième degré, l'eau vient d'un canal. La grâce agit presque seule. Et l'âme goûte la paix. Quatrième degré, l'eau tombe comme une pluie. Là, c'est l'union transformante. Pure initiative de Dieu. Voyez le détachement nécessaire entre l'effort du départ, on puise l'eau à la main, ou avec la machine qui tourne, ou avec le canal encore qui est là, et puis finalement la pluie. Donc, apprendre cette dépossession, cette pauvreté, pour goûter la richesse de Dieu. Et notre propre enrichissement. De telle manière que on puisse agir, on puisse vivre comme Dieu agit et vit. Ça c'est la chose peut-être qu'on a le plus de mal à imaginer. On se dit, c'est impossible de vivre comme Dieu. Mais c'est notre vocation. Et c'est exactement le chemin que nous a ouvert le Christ. Oui. Et pour vivre cela, il faut pouvoir descendre au plus profond de la source pour l'accueillir et se laisser transformer. C'est à la fois la prière et l'amour. Donc l'oraison pour Thérèse, c'est vraiment un chemin de grâce où la fidélité et l'humilité ouvre à l'action de Dieu. Thérèse nous avertit en disant « Le signe que l'oraison est authentique, ce n'est pas l'extase ou les consolations, c'est la croissance de la charité. » Ça, c'est le lieu de vérification, vraiment. Ce n'est pas l'extase ou les consolations qu'on attend souvent. On dit, je sens rien dans la prière, il se passe rien dans la prière. Donc finalement, je me décourage, j'arrête de prier. Ça n'a rien à voir. Peu importe. Je suis là. Il est là. Et ça suffit pour que croisse la charité. Donc ça vaut le coup de perdre son temps à se rendre gratuit, quoi, si vous voulez. Vous voyez ? Comme Dieu est gratuit. Donc du coup, où en sommes-nous de l'amour fraternel? En communauté, c'est terrible. Parce que les grandes priantes que nous avons là, ici, à côté de nous, on ne peut pas le voir parce qu'on est un peu à distance, mais elles n'arrêtent pas de régler des petites choses au quotidien qui, à travers des détails, font des histoires infinies. Et du coup, c'est une communauté, pas forcément que celle-là, hein, toutes, hein, sont des communautés qui sont comme des laboratoires, si vous voulez, d'humanité, et qui travaillent cette question-là de la croissance de l'amour par la prière, mais aussi dans le travail quotidien de la vie fraternelle. On a tendance à penser que la spiritualité se travaille à la verticale, dans la relation au Dieu perdu dans le ciel. Non, non, la spiritualité se travaille aussi à l'horizontale. Parce que, comme vous le savez bien, le commandement de l'amour est double. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont semblables. Donc ça veut dire que travailler à la vie de Dieu, c'est travailler les deux dimensions. Saint Thérèse s'adresse à ses sœurs en leur disant « Le premier point à observer, mes filles, c'est l'amour mutuel. » Le premier point à observer, mes filles, c'est l'amour mutuel. Car si vous ne vous aimez pas sincèrement les unes les autres, je ne puis croire que vous aimiez Dieu véritablement. Ça, c'est clair. C'est ce que dit la première épître de Saint Jean, d'une manière fracassante. Aimer Dieu et aimer le prochain ne se séparent jamais. Et l'oraison sans charité est illusion. Saint Thérèse dit encore, « Croyez-moi, mes filles, la perfection ne consiste pas dans les ravissements, mais dans l'amour de Dieu et du prochain. » Et donc la qualité de la prière se mesure non à son intensité émotionnelle, comme on pourrait être illusionné de le croire, mais à la capacité d'aimer avec une infinie patience, une infinie humilité, un infini sens du service, du pardon et de l'écoute mutuelle dans le silence du cœur. Elle dit aussi, nous devons regarder les vertus des autres, non leurs défauts, car si nous regardons les défauts, nous perdons la paix intérieure. Donc la charité n'est pas un vague sentiment, c'est un exercice de présence, de la même manière que l'oraison est un exercice de présence, dans la patience et la vérité. Et plus on travaille l'union à Dieu, plus on devient capable d'aimer de cette manière-là ceux qui nous entourent. Donc, comme le dit Saint Thérèse, plus l'âme s'unit à Dieu, plus elle s'oublie elle-même, c'est-à-dire l'illusion d'elle-même, le personnage qu'elle porte, et plus elle s'oublie, plus elle est capable d'aimer les autres. S'oublier, ça ne veut pas dire ne plus exister, hein. Ça veut dire exister à partir de la source qui nous fait, et non pas à partir de nous-mêmes, notre représentation de nous-mêmes. C'est très différent, et c'est ça la conversion, encore une fois. Donc, pour Thérèse, il n'existe pas deux vies, l'une de prière, l'autre d'action, mais une seule vie habitée par Dieu. L'oraison nourrit la charité nourrit aussi d'une certaine manière l'oraison. Elle écrit, ne croyez pas que les oraisons élevées servent à quelque chose si elles ne produisent pas de bonnes œuvres. Ça c'est capital, c'est capital. L'oraison qui ne change pas le cœur est suspecte. L'oraison qui ne change pas le cœur est suspecte. Et inversement, la charité sans prière s'épuise. Elle devient activisme. La prière nous établit dans la source et la charité fait de nous des fleuves d'eau vive. Alors, pour vivre ça, j'ai presque fini, Thérèse est centrée sur le Christ dans son humanité, sa très sainte humanité, et c'est dans le compagnonnage et dans la contemplation de Jésus, surtout dans sa passion, qu'elle peut plonger dans ce mouvement de charité, hein, puisque la passion, c'est le mystère de Pâques, où le Fils reçoit tout du Père, le partage à tous dans l'Esprit et le rend au Père. C'est le mouvement eucharistique, si vous voulez. C'est le secret de l'existence, ce mouvement-là. Nous recevons tout du Père, nous ne gardons rien pour nous-mêmes, comme le Christ l'a fait, dans l'Esprit, le souffle puissant de Dieu qui nous traverse, et nous rendons tout au Père. C'est l'action de grâce, rendre grâce. Donc, avec le Christ, et surtout dans sa passion, nous apprenons à prier et à aimer. Elle disait, regardez le crucifié et tout vous paraîtra facile. Non pas au sens, il a plus souffert que nous, mais au sens où il a vécu de sa passion dans la communion du Père. Il n'y a pas de dolorisme chez les grands mystiques. Il y a de l'élan, y compris dans la passion. Parce que le cœur du Fils est dans le Père. Et le cœur du Père est dans le Fils. Et il nous le partage. Donc, dans l'oraison, Thérèse médite sur le Christ souffrant, humble, pauvre, dépossédé. C'est quand même extraordinaire que le Fils de Dieu se présente à nous dépossédé, vous voyez. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Et c'est là qu'elle puise la force d'aimer comme lui. Donc, oraison et charité ne sont pas deux vertus à juxtaposer, mais deux expressions d'un même amour du Christ. Et pour finir, Thérèse comprend la charité dans une dimension aussi missionnaire. Prier, c'est aimer le monde, non pas être du monde, mais aimer le monde. Dans le chemin de la perfection, elle invite ses sœurs à prier pour les prêtres, pour l'Église, pour les âmes. Elle dit, tâchez mes filles de vous rendre utiles à l'Église, ne perdez jamais de vue ce grand bien de prier pour les défenseurs de la foi. Et l'oraison devient participation à la charité du Christ rédempteur pour le monde. La vie cachée de prière rayonne mystérieusement dans le monde entier. La petite Thérèse en est un bon exemple. Donc, Le message de Thérèse à ce propos est vraiment d'une grande actualité. Et je pense que pour l'avenir du monde, il faudrait travailler cette connexion du cœur. Ce serait capital. Et en Église, il faudrait vraiment se remuer là-dessus, quoi. C'est peut-être plus important de travailler cette question de la profondeur et de la conversion du cœur que de discuter à l'infini de la réorganisation des structures. Oui. Si on s'établit dans la conversion du cœur profond, on sera capable de modifier les structures. Mais si on ne s'y établit pas, ça va être compliqué. Donc il y a un travail de conversion et qui vaut aussi comme un exemple pour la vie en société. Euh, Sainte Thérèse disait, même au milieu des affaires, il est possible de s'entretenir avec Dieu. Même au milieu des affaires, il est possible de s'entretenir avec Dieu. Moi, je le crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Beaucoup. La mystique authentique se vérifie dans les gestes simples de l'amour quotidien. Écouter, pardonner, servir, sourire. Elle écrit, Sainte Thérèse, « Le démon nous trompe souvent en nous faisant penser que la sainteté consiste dans des choses extraordinaires. Or, elle consiste à faire avec perfection les petites choses. » C'est vrai. Et donc, du coup, elle nous entraîne vers une sainteté réaliste et joyeuse. Et pour elle, par l'oraison, le cœur se tourne vers Dieu et reçoit son amour, et par la charité, ce même amour se répand vers les autres dans un dynamisme de profondeur. Quoi. L'amour de Dieu, mes filles, disait-elle, ne consiste pas en des larmes ni en des douceurs intérieures, mais en un ferme propos de plaire à Dieu en toute chose, de faire tout son possible pour ne pas l'offenser, et de prier pour la croissance de l'Église. Eh bien, je termine en priant avec Sainte Thérèse. Seigneur Jésus, toi qui as parlé au cœur de Thérèse, apprends-nous à demeurer en ta présence, à nous savoir aimer, à te laisser transformer notre cœur pour aimer à notre tour. Fais de notre oraison une source de charité, et de notre charité, le fruit d'une vraie union avec toi. Amen. Merci.
Merci beaucoup, frère. On a un petit peu de temps pour des questions. Donc...
Maître Eckhart, il dit que personne ne peut vivre tout le temps en présence de Jésus.
Il faut redire, j'ai pas bien compris.
Maître Eckhart dit qu'on ne peut pas vivre tout le temps en présence de Jésus. Personne, c'est ça?
Personne ne peut vivre en tout temps en présence de Jésus, mais Jésus peut vivre en tout temps en présence de nous. Et du coup, nous ne sommes pas toujours là, mais lui est toujours. Donc, du coup, on peut toujours rebrancher, d'une certaine manière. Et ça n'a pas besoin d'être rationalisé, en fait. Vivre en présence, c'est comme une espèce d'invitation permanente, quoi. Qu'on n'a pas besoin de rationaliser par une conscience... mental. C'est presque comme une conscience corporelle, quelque sorte, première. Et si je débranche, je peux rebrancher. Donc, acquérir cette capacité à rebrancher par le fond, quoi. Et moi, je pense que l'oraison, c'est un peu ça, en fait. Apprendre à descendre, quoi. Ouf. Hop là. Si quelqu'un me parle mal... Comment est-ce que je peux redescendre là, dans cette source de vitalité, pour pouvoir répondre d'une manière juste, quoi. Donc, nous ne sommes pas toujours branchés, mais nous pouvons rebrancher. Mais je suis d'accord, oui, Maître Eckhart avait raison, mais c'est sûr, on ne peut pas être tout le temps. Nous ne sommes pas accomplis, nous sommes en devenir, donc nous travaillons, c'est sûr.
Merci. Une autre question.
Oui, là-bas au fond.
Vous avez évoqué la conversion du cœur. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites conversion du cœur?
Alors, d'abord, il faut savoir parce qu'on entend par le cœur. Hein. Le cœur n'est pas le cœur vibrant, le cœur battant, le cœur émotif. Le cœur dans la Bible et chez les pères, c'est vraiment ce lieu inaccessible, en quelque sorte, qui est le centre de nous-mêmes, le cœur de nous-mêmes, le centre de nous-mêmes, et qui se tient à ce niveau d'entrailles qui définit même le sentiment ou le mouvement de miséricorde, c'est-à-dire le cœur qui se laisse toucher, émouvoir, comme Dieu se laisse toucher. Donc, ce lieu presque inatteignable, en quelque sorte, est un lieu par rapport auquel nous avons à faire confiance qu'il existe et qu'on puisse le rejoindre sans mots, qu'on puisse le rejoindre sans concept, qu'on puisse le rejoindre sans représentation, sans imaginaire, quoi, en quelque sorte. C'est le lieu d'un silence parfaitement silencieux, comme un fond d'écran sur lequel viennent se poser les événements, les personnes, les objets, etc., etc., et sur lequel nous n'avons pas de prise. Donc, la conversion du cœur, c'est pouvoir passer du registre de nos interventions en direct avec les potentialités conceptuelles, de mouvements, de sentiments, d'émotions, etc., etc., de passer de cette perception immédiate à cette descente, cette assise, cette descente dans l'assise où la perception devient beaucoup plus large et pas seulement la nôtre, quoi, en quelque sorte. Et qu'à partir de cette perception-là d'entrailles, de miséricorde, au sens vrai du terme miséricorde, du cœur à cœur avec Dieu, puissent se développer toutes les potentialités que nous possédons comme êtres humains. Mais pas l'inverse. La plupart du temps, dans l'anthropologie moderne, on pense que le plus important, c'est d'être efficace par la déduction, par le process en toutes circonstances, quoi. Et les plus efficaces sont ceux qui vont résoudre les problèmes de cette manière-là avec leur intelligence et leur capacité ou leurs sentiments. Et quand on est chrétien, on dit « et ensuite j'irai prier », quoi. Donc je vais résoudre tous les problèmes qui se posent de cette manière-là en direct, et puis quand il me restera un peu de temps, je me mettrai à genoux devant Dieu. Le problème, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps après, de toute façon. Alors que la proposition de l'Évangile, c'est de commencer par aller visiter cette zone du cœur pour ensuite se mettre au service. Vous savez, c'est l'Évangile de Marthe et Marie. L'une et l'autre voulaient écouter, l'une et l'autre voulaient servir. Il y en a une qui sert en direct et qui va écouter après. C'est évident. Et l'autre, elle commence par écouter, et puis viendra le temps du service. Et Jésus dit, je pense que c'est plus important de commencer par écouter, quoi. Par faire silence, par descendre dans ce lien, et le lien entre Marie et Jésus, là, est un lien du cœur, quoi, est un lien du cœur profond. Il faudrait employer l'expression, non pas le cœur tout seul, mais le cœur profond, quoi. Le cœur en deçà de tout, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce travail sur le cœur, actuellement, est rejoint par un certain nombre de courants, même dans les neurosciences, ce que les neuroscientifiques, le neurobiologiste appelle la conscience, par exemple, ressemble beaucoup à ce lieu du cœur. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement les neuroscientifiques honnêtes disent nous n'avons pas la possibilité de reproduire les mouvements de ce cœur-là, de cette conscience profonde. Et donc nous ne sommes pas capables de reproduire de l'humain. Nous ne sommes pas capables. Nous, ceux qui veulent faire du post-humain, ne font que de la répétition de l'homme extérieur, quoi. mais pas de l'homme dans sa profondeur. Heureusement, heureusement. C'est le Saint des Saints, quoi. C'est le lieu de la demeure de Dieu, en nous. Dieu établit en nous sa demeure, c'est quand même sacré. Alors, donc, pour moi, la conversion du cœur, c'est ça, quoi. Et ça n'a rien à voir avec simplement une conversion à des attitudes morales, de grande pureté, des choses comme ça. Ça, bien sûr, si on travaille ce lieu du cœur, notre comportement va s'adapter au bien. Mais ce n'est pas d'abord un travail sur un redressement du comportement. C'est d'abord un travail sur ce lieu de connexion au cœur pour modifier notre comportement.
Ouais. Merci. Est-ce qu'il y aura une dernière question?
Ça va être l'heure de conclure.
Ça va être l'heure de l'oraison d'abord. Bon, on va. Bon,
je demande pardon à nos sœurs carmélites de parler de Sainte Thérèse comme ça, alors que, évidemment, c'est votre vie. Moi, je connais mieux Saint Benoît. Hein.
Oui, mais vous vous débrouillez très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va prendre le chant Dieu seul suffit, c'est le jour. Je crois que c'est page 6. Page 4, pardon.
Page 7. L'horizon. Ah, parce que c'est trop tard.